Bonsoir. Donc, merci d'être venu donc, ce soir. Je vais essayer de vous présenter, moi, à titre liminaire, la genèse en fait, de l'ouvrage. Alors, ce que je voulais vous dire donc, en présentation, c'est qu'en fait, ce livre est né en fait, de l'existence de deux paradoxes. Alors, on s'est aperçu tout simplement que les notaires donc, étaient vraiment au cœur de la réalisation, puisque c'est vraiment... le notariat qui va réaliser les actes, hein, les actes notamment de transfert de propriété, mais pas seulement, puisqu'on les retrouve aussi en matière de succession, donc dans les règlements des successions. Et contrairement à cette présence qui est réelle et essentielle dans le rouage et la mise en œuvre de la réalisation, on ne retrouve aucune étude qui est réalisée sur le rôle joué par les notaires donc pendant l'occupation. Alors même qu'on s'aperçoit qu'entre 39 et 42, vous avez un doublement de leur chiffre d'affaires, hein, ce qui montre bien quand même l'importance du rôle joué par les notaires. Ensuite, on s'est aperçu que le notariat n'a pas beaucoup communiqué par rapport à cette période. Il y existe un ouvrage qui avait été réalisé dans les années 60 par deux éminents notaires qui étaient maître Charles Collet et Houdard. C'était des notaires parisiens et notamment maître Collet qui sera président de la Chambre de Paris et maître Houdard qui aura d'éminentes responsabilités puisqu'il sera président du Conseil supérieur du notariat. Donc quand il présente donc, le rôle des notaires pendant cette période, en fait, on a l'impression que c'est vraiment dans le cadre d'une résistance larvée qu'ils s'inscrivent. Et là aussi, il y a un autre paradoxe à notre sens, puisqu'on s'aperçoit que le notarial lobbying du notariat, en fait, est vraiment arrivé à repousser l'ouverture des archives durant cette période. C'est-à-dire que généralement, c'est 30 ans ou 50 ans pour pouvoir avoir accès à ce type d'archives. Notarial, lui, c'est 75 ans. D'accord ? Donc, d'où ce paradoxe ? Si vraiment il y a eu une résistance, pourquoi faire en sorte qu'on n'ait pas accès finalement à ces archives. Donc là aussi, c'est un travail qui pour nous a été très difficile parce qu'aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. On n'a pas encore accès aux archives notariales, donc aux actes, hein, aux minutes des notaires. Donc on a dû contourner la difficulté. On a surtout nous travaillé à partir des archives du ministère de la Justice. Voilà. Qui échangeait énormément durant cette période avec les représentants du notariat. Et avec le commissariat aux questions juives. Donc voilà, c'est ce qui nous a permis, nous, vraiment aujourd'hui, de pouvoir reconstruire et reconstituer, en fait, quel était le rôle joué par les notaires.
Voilà, dans le détail desquels je vais un petit peu entrer maintenant. Alors, il y a plusieurs lignes de défense de la part des notaires pour expliquer, d'abord, qu'ils n'ont pas collaboré, ensuite, qu'ils ont collaboré, mais malgré eux, et qu'ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour réduire autant que faire se pouvait la rigueur des textes. Je vais essayer de montrer que c'est exactement l'inverse qui s'est passé à partir de grandes masses. Les archives du commissariat général aux questions juives, c'est le fonds AJ38 aux archives nationales, 650 mètres linéaires. Il y a également le CDJC, Centre d'occupation juive contemporaine. Il y a les archives d'Aïe de Paris, les archives départementales, donc il y a 100 départements, à peu de choses près. Il y a les archives du ministère de l'économie, du côté de Melun. Ce qui signifie qu'aucun chercheur, et nous n'avons pas la prétention d'avoir lu l'intégralité des 650 mètres linéaires du fonds AJ38, d'avoir lu l'intégralité du fonds du ministère de la Justice, etc. Ce qui veut dire qu'on a travaillé à partir de sondages. Donc on présente dès l'origine notre travail en disant c'est 2 ans de recherche, c'est 15 mois d'écriture, mais on n'a pas pu avoir accès à l'ensemble des pièces. Ce qui signifie que en aucun cas, nous ne disons tous les notaires sont. Aucun notaire n'est. Il n'y a pas un seul document qui. Ça signifierait que nous avons eu la capacité d'avoir une vision exhaustive de toutes les communications, de toutes les lettres, de toutes les notes, etc. Donc, en aucun cas, nous n'allons aller au-delà de ce que nous disons, c'est-à-dire à partir des documents que nous avons pu consulter, voilà les conclusions auxquelles nous parvenons. Nous avons, sur le plan de la méthode, je suis un petit peu longué là-dessus, mais c'est vraiment important pour qu'on sache également de quoi on parle et en sachant pourquoi on conclut de telle ou telle manière, sachant qu'on n'est jamais définitif. Un document isolé ne nous intéresse pas. Donc nous avons toujours travaillé à partir de groupes de documents. Une lettre seule, 6700 notaires, on ne peut à l'évidence pas avoir tout lu. Donc une lettre seule, on ne l'a pas regardée. Elle ne nous intéresse pas parce qu'elle ne dit rien. 10 lettres, 15 lettres, 20 lettres, là ça commence à signifier quelque chose. Donc vous verrez, ceux qui ont déjà le livre et ceux qui éventuellement le feuilleteront, vous verrez qu'il y a à chaque fois une série de documents. Série de lettres des notaires ou des présidents de chambre au commissariat général, aux questions juives, les réponses du commissariat, le ministère de la Justice, les préfectures, etc. Donc, à chaque fois, on a travaillé par groupe, et c'est uniquement quand on avait un volume qu'on a dit, voilà, d'après ce qu'on a trouvé, ce que l'on peut dire. Et c'est pourquoi, non, j'entre un peu plus dans le détail, c'est pourquoi je peux, nous pouvons aujourd'hui dire, non seulement les notaires n'ont pas freiné l'organisation, mais ils sont allés au-delà des textes et au-delà du terme. Alors je vais commencer par Bordeaux, peut-être parce qu'on est à Bordeaux, et je vais prendre le terme. Le 9 août 1944, il y a abolition des textes vichistes sous réserve d'eux, puisque tous les textes n'étaient pas raciaux, ou tous les textes n'étaient pas antisémites pour ce qui nous concerne. Ou... Donc les textes, c'est un certain nombre de textes, sont demeurés jusqu'à aujourd'hui. En revanche, tous les textes de spoliation, d'organisation, tous les textes qui sont au cœur de notre sujet, sont abrogés. Et par exemple, la notion même de juif selon Vichy, non seulement n'existe pas pour l'avenir, mais a été abrogée ab initio, n'existe pas, n'a jamais existé. Donc c'est une volonté. J'essaie à chaque fois, quand je regarde des visages et que je vois une réaction, j'essaie de répondre à la réaction. Il est plus facile, pardon, de regarder les gens du premier rang, mais n'hésitez pas. Lorsque Georges Bidault cède la parole à Charles de Gaulle, on est à Paris, ça doit être le 25 ou 26 ou 27 août 1944, et Charles Bidault dit « Dites que vous rétablissez la République ». Et Général de Gaulle dit « Non, la République n'a jamais cessé ». Voilà. Donc, on est sur une fiction depuis 1945, volontaire. On y entrera peut-être plus dans le détail, soit en propos terminal, soit sur les questions. Il y a une volonté d'avoir restitué à la France son rang international. Donc, la collaboration ne pouvait être le fait que d'une poignée de misérables. C'est le terme qu'utilise Général de Gaulle. Ensuite, il veut reconstruire matériellement la France, donc il est obligé de dire que la collaboration n'a pas vraiment existé. Donc c'est de l'histoire, on passe au mythe, et c'est le mythe du général de Gaulle. Bon, on est à Bordeaux, le 9 août 1944, il y a rétablissement de l'égalité républicaine. Eh bien, le directeur de la commission du service des séquestres, donc c'est rétablissement de la République, écrit au président de la Chambre des notaires en disant « Je vous remercie de bien vouloir prendre note qu'il faut arrêter de vendre les biens despoliés. La République existe depuis maintenant un mois. Il s'agirait que même à Bordeaux, et même les notaires bordelais s'en rendent compte. » Voilà. Donc quand je dis « On est allé au-delà du texte », je vais essayer de le démontrer, au-delà du terme, oui, à Bordeaux, le 5 septembre 1944, était encore prévu des ventes de biens appartenant à des Israélites. Donc, au-delà du terme. Au-delà du texte, maintenant, on va essayer de le montrer. Alors, deuxième ligne de défense, ou première ligne de défense, je ne sais plus, les notaires disent, certes, nous avons collaboré, donc c'est, nous n'avons pas collaboré, mais si, alors certes, nous avons collaboré, mais parce que nous étions des techniciens du droit, que nous avions des compétences qui étaient, Anne-Sophie Poirou vient de le dire, le droit de la famille, l'immobilier, à l'époque, les fonds de commerce, le droit des sociétés, j'en oublie peut-être. Donc, puisque le périmètre de l'organisation, C'est le périmètre des compétences des notaires. Il n'y a rien d'étonnant à ce que les notaires soient intervenus. Anachronisme. La compétence, le monopole des notaires sur les ventes immobilières, 1er janvier 1956. Il n'échappera à personne que c'est postérieur à 1940. Il y avait en 1940 une possibilité d'avoir des actes qui étaient soit sous sein privé, vente immobilière sous sein privé, donc fait par un avocat par exemple, ou bien des actes authentiques signés par devant notaire. C'est le cas obligatoirement depuis le 1er janvier 1956 sur la base d'un décret du 4 janvier 1955, mais c'est postérieur à la guerre. Donc ça n'explique pas pourquoi c'est les notaires qui le font. Mais en revanche, moi j'ai trouvé une explication. Les autorités allemandes déclarent que lorsqu'il y a possibilité de travailler avec les avocats ou avec les notaires, il ne faut pas travailler avec les avocats. Donc pour ceux qui ont le livre, c'est page 97. Page 98 pour les mêmes, le régime de donation, le CGQJ dans une note de mai 1942 déclare, c'est la même chose, vous avez compris la chute, lorsqu'il y a notaire ou avocat, nous excluons de travailler avec les membres du barreau. Donc il faut se poser la question, pourquoi, alors que les avocats et les notaires se ressemblent beaucoup apparemment, pourquoi les officiels allemands, pourquoi le commissariat aux questions juives a voulu travailler exclusivement avec les notaires? Eh bien, il y a une explication à cela. Il faut remonter en 1939. Il y a deux syndicats. Un syndicat qui est l'Association des notaires ruraux et un autre syndicat, l'Association nationale des notaires de France, ANNF. Je vous demanderai de conserver en mémoire l'ANNF. L'ANNF est vichiste. On ne peut pas avoir tous les défauts. L'ANNF est vichiste et considère que la défaite de 1940 est probablement arrangée du côté des divines surprises. L'ANNF va pouvoir éliminer son concurrent, les notaires ruraux, qui d'ailleurs d'eux-mêmes décident que le temps des réclamations corporatistes ou des demandes quant à France s'effondre, c'est peut-être pas le moment de s'intéresser aux structures du notariat. Grande erreur. Parce que l'ANNF va parvenir à obtenir de Vichy la réalisation du CSN, Conseil supérieur du notariat, déclinaison conseils régionaux, déclinaison chambre départementale. Et qui va constituer les membres qui vont composer les chambres départementales, voilà, vous avez compris, les conseils régionaux, le conseil national, c'est les membres de l'ANNF. Donc l'Association nationale des notaires de France va, à partir du moment où le CSA, Conseil supérieur notariat, est constitué, travailler non pas à la mise en œuvre, mais éventuellement à l'amélioration de la spoliation. Et on a un certain nombre de textes, de lettres, un mémorandum Boudier notamment, qui explique comment, il dit au commissaire général aux questions juives, votre affaire c'est bien, mais ça ralentit les ventes. Donc il s'agirait d'améliorer un peu le système. Tout est évidemment sourcé. Les notes infrapaginales sont moins complètes dans le texte que vous aurez sous les yeux si vous prenez ce livre que dans le manuscrit, parce que le manuscrit faisait 700 et quelques pages et que l'éditeur considérait que bien un moment c'est une arme de jet et c'est plus un livre. Donc il a fallu enlever les documents. Mais nous avions à cœur, dans les notes infrapaginales, de recopier le passage. Là, vous avez simplement la référence à NAJ38. C'est des éléments qui, malheureusement, donc ont disparu. Mais si vous avez et l'envie et le temps et le courage d'aller aux archives nationales, vous pouvez consulter le document. C'est par carton. Donc vous avez le carton qui est... Ensuite, il faut chercher dans le carton. Mais vous avez à chaque fois le document qui est référencé. Donc c'est beaucoup plus facile d'aller vérifier et de constater que ce que l'on dit, c'est effectivement après lecture et pas sur une intuition. Donc il ne faut pas retenir que les notaires sont intervenus parce qu'ils étaient compétents, mais parce qu'ils le souhaitaient. Ça, c'est l'élément qu'il faut conserver en mémoire. Après, il y a un chapitre qui a disparu de ce livre. C'est le chapitre qui est consacré aux avocats. J'avais notamment une lettre de Yves Réjols-Perger, que vous verrez, c'est un membre éminent du commissariat général de questions juives, qui reproche aux avocats de faire leur boulot, quoi, de défendre les juifs. C'est vrai que si on se met à attaquer les décisions qui sont prises par le commissariat, si on se met à ralentir les ventes qui sont poursuivies par les notaires, on aura du mal à réaliser dans les temps prévus. Donc, ce que l'on dit, effectivement, est fondé sur ce point. Plusieurs secteurs d'activité, l'immobilier, le droit de la famille, les successions, énormément de fonds qui sont entre les mains des notaires. On le verra un petit peu plus tard. À l'époque, les Français ne croient pas trop dans la banque. Il y a probablement l'affaire Lot de la Révolution française. Ben oui, même les plus anciens ne s'en souviennent pas, c'est normal. Mais l'affaire Lot, les assignats, voilà. Ensuite, il y a eu l'affaire de l'emprunt russe. Après, il y a donc les Français ne sont pas très 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 chauds pour mettre leur argent ailleurs que dans le bas de laine, sous le matelas ou chez le notaire. Et donc, il y a effectivement une fonction bancaire chez le notaire. On le verra. Premier point, les ventes immobilières. Alors pourquoi dis-je que les ventes immobilières, les notaires sont allés au-delà du texte ? Parce qu'il était prévu que ferait l'objet de vente des biens appartenant à des juifs ne constituant pas leur habitation personnelle. La réalité, si on prend la durée de la guerre, à la fin de la guerre, le commissariat général avait assez envie de revenir sur cette dérogation, parce que ça ralentissait là aussi l'activité économique, et qu'il était préférable finalement de tout vendre. Mais juridiquement, il n'était pas possible de vendre l'habitation personnelle. Nous avons un rapport qui est rédigé à la fin de 1944, par un monsieur Blot, qui travaillait au commissariat général aux questions juives. Et à la fin de 1944, il dit, sur 14 000 ventes, 2 000 sont allées jusqu'à l'homologation. Sur ces 2 000 ventes, 800, 40%. Il dit au moins 800, au moins 40%. Monsieur Blot travaille comme moi sur sondage. On ne peut pas travailler sur... Il y a 50 000 ventes qui ont été mises en avant. On ne peut pas travailler autrement. Donc on travaille sur des sondages. 40% au moins sont annulables parce qu'elles portaient sur des habitations personnelles. Donc ça veut dire qu'effectivement, non seulement les notaires sont allés jusqu'au texte, mais sont allés au-delà du texte. Ils sont encore allés au-delà du texte parce qu'il est prévu qu'on vend le bien des Juifs. Que se passe-t-il lorsqu'on a une indivision ? On a un Juif et un Arien. Un avocat, maître Anne-Sophie Poirot est avocate, j'étais avocat, on lit le texte et on se dit, mais là, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas vendre un bien semi-juif. Voilà. Donc, il y a matière à débat. Eh bien, les notaires ont décidé qu'il était possible de vendre les biens appartenant pour partie à des Ariens, pour partie à des Juifs. Il suffisait ensuite de distribuer les sommes. Facile. Sont allés au-delà du texte, peut-être même là, alors en deçà. Je vous laisse le choix du terme. Premier statut, 3 octobre 1940. Second statut, 2 juin 1941. Il n'y a pas eu de troisième statut. Darquier de Pellepoix a fait tout ce qu'il pouvait, mais là, il s'est quand même heurté à la volonté de Laval. C'est entre le 26 août et le 2 septembre 1942, sur le lendemain des grandes rafles. Laval dit on ne peut pas. Allez, c'est pas comme prise unique où on va chercher des biens en toute quantité et à prix toujours identique. Les Juifs, on ne vous les donne pas comme ça. Et donc, il n'y a pas eu de dénaturalisation, ce qui avait été prévu. Le texte est signé par Laval, mais il reprend son texte. Voilà. Donc, c'est ce moment où il y a le basculement. Il faut le garder en mémoire. La loi, c'est la loi du 22 juillet 1941 et la loi du 17 novembre 1941. C'est les deux grandes lois sur l'immobilier. La loi du 22 juillet 1941 prévoit la remise du fonds. Vous vendez, monsieur vend à madame, madame a le bien à la fin de la vente, monsieur a l'argent. Bon. Pas tout à fait, parce que l'ordonnance allemande, c'est la troisième ordonnance, du 26 avril 1941 prévoit que le propriétaire juif ne percevra rien. Sont allés au-delà du texte parce que lorsque on lit le livre dont vous a parlé Anne-Sophie Poirot, le livre de Charles Collet et André Houdard, La Chambre de Paris sous l'occupation, on voit qu'ils disent « mais nous sommes battus ». Il faut savoir que les notaires se battaient. Nous sommes battus pour que les juifs spoliés puissent avoir un bon prix. Qu'est-ce que ça peut vous faire d'avoir un bon prix dans une vente ou pas si vous ne le percevez pas, ce prix? Alors, dans un premier temps, on dit ben, ils se moquent un peu de nous quand même. Mais dans un deuxième temps, on regarde. Comment était établi le prix? Alors on a trois temps. Premier temps, c'est l'administrateur provisoire. Ça doit valoir ça. Deuxième temps, difficile de... L'administrateur provisoire, c'est quelqu'un qui est choisi amtramgram. On n'a pas une compétence particulière. On est un ancien huissier, par exemple. On devient un ancien notaire, beaucoup d'anciens notaires. Notaire honoraire. On n'est pas forcément très compétent. Mais donc un architecte. L'architecte va évaluer. Puis il y a une commission. Et la commission est composée d'un certain nombre d'hommes, dont les représentants de la Chambre des notaires. Et Maître Collet et Houdard disent « Nous avons toujours veillé à ce que les évaluations soient au meilleur prix possible. » Donc encore une fois, c'est se moquer du monde quand on ne perçoit pas le prix que de savoir si ce prix est important, moyen ou pas très important. Et en plus de ça, c'est faux. Lorsqu'on regarde les documents, donc le fonds AJ38 nous a beaucoup servi, on a vu que dans nombre d'hypothèses, les ventes étaient faites à 30, 40, 50% en dessous du prix proposé. Pourquoi ? Bien, je vous ai parlé de Stalingrad, parce qu'à partir du... Stalingrad, c'est le 2 février 1943. On a une période de temps qui là, conduit les acquéreurs potentiels, qui faisaient pourtant de très bonnes affaires, à se demander si c'est une si bonne affaire que ça. C'est cynique, hein, c'est purement cynique. Le 8 novembre 1942, les Anglo-Américains débarquent en Afrique du Nord et l'opération Attila ou Anton, puisque ça a changé de nom, c'est la descente des Allemands. Enfin, vous les avez eus depuis le début, donc ça n'a pas beaucoup changé pour vous, mais à Marseille aussi. Et à Nice, c'est en septembre 1943, lorsque Mussolini est démis. On a l'arrivée de... À ce moment-là, on se rend compte que le tour des événements est probablement en train de... Le sort des armes est en train de changer. Et donc, acquérir un bien dans ces conditions, ce n'est pas forcément un investissement d'avenir. D'autant qu'à la même période, il y a des avertissements qui sont lancés, ils sont cités, hein, par les Alliés et par Londres. À ce moment-là, on dit que ceux qui auront profité du malheur national ont du souci à se faire, pour dire les choses simplement. Décision mise en œuvre en Afrique du Nord, où les lois raciales de Vichy sont abrogées. Donc on se rend bien compte que si jamais les alliés arrivent, vaut peut-être mieux pas être trop chargé en biens spoliés. Donc à ce moment-là, il y a un effondrement des ventes. Gardez-le en mémoire, on le reprendra en conclusion. Nous verrons que l'ordonnance allemande du 26 avril 1941 ayant prévu que le propriétaire juif ne perçoit rien, il faut bien mettre cet argent quelque part. Où ? Ben, à la Caisse des dépôts et consignations, il y a deux comptes, le compte 501 et le compte 511. Le compte 501 est fait par affaires, le terme affaires étant entre guillemets, un propriétaire juif peut avoir un appartement et un fonds de commerce. Donc il va y avoir deux affaires. Bien. Et le compte 511, c'est pour financer le commissariat aux questions juives. Parce que le régime juridique de l'organisation est fondé sur l'idée que le propriétaire juif n'est pas une victime, mais un administré. Donc il appartient de financer la mise en œuvre des décisions qui sont prises. Ça coûte de l'argent de vendre des biens qui ne sont pas à soi. Donc il faut le financer. C'est le compte 511. Et si vous regardez le rapport de la commission Matteoli, c'est promis, je n'attaquerai pas beaucoup la commission Matteoli, mais sur ce point, c'est difficile de passer complètement. La commission Matteoli porte sur les questions d'organisation et de restitution. On va y venir. Et c'est le rapport d'Antoine Pro. Je dénonce mes petits camarades, j'ai probablement tort, mais vous ne le répéterez pas. Il dit on ne peut pas savoir à qui appartenait cet argent. Parce que les consignations ont été faites par les notaires sur le fondement du décret de 1890. Ben non, c'est sur le fondement de la loi du 22 juillet 41. Or, effectivement, le décret de 1890 prévoit que les comptes sont consignés par les notaires au nom du notaire. sans que la Caisse des dépôts et consignations n'ait connaissance ni du bénéficiaire ni du motif. Effectivement, si on regarde le droit commun, c'est-à-dire ce qui se passe en dehors de cette petite parenthèse ridicule de 40 à 45, il y a effectivement un régime qui s'applique. Mais comme la commission Mattéoli était censée travailler sur la loi de 41, c'était mieux qu'elle regarde plutôt le texte de la loi de 41 que le décret de 1890 ou je ne sais quelle loi postérieure. Donc si, on peut remonter. Qu'il y ait une volonté de ne pas remonter, c'est à peu près certain, mais qu'il y ait une possibilité de remonter, c'est tout à fait sûr. Concluons ce chapitre, je crois, par cette remarque qu'il appartient désormais à la volonté politique de dire « Ok, maintenant on y va ». Jusqu'à présent, ça a toujours été « Non, non, c'est pas possible ». Lorsque la commission de Bordeaux s'est réunie, commission extra-municipale, c'est Alain Juppé, 1999, la chambre des notaires de Bordeaux a participé, c'est une très bonne chose qu'elle participe. Il est toutefois regrettable qu'elle ait participé pour dire que le fichier immobilier datant de 1956, il était impossible de savoir ce qui se passait avant. Les Français vivaient dans des cavernes, vous voyez, des huttes, je ne sais pas très bien, peut-être sur la plage, difficile à dire. Et le 1er janvier 1936, les immeubles sont arrivés et le fichier dans la même occasion. Incroyable, personne ne s'était rendu compte de ça. Donc bien évidemment, ce n'est pas très raisonnable de la part... Oui, on pense parfois que les notaires n'ont pas d'humour, c'est une erreur. Par exemple, si on regarde une vente en Gironde, une vente de on apprend que compte rendu de l'Assemblée générale de la Chambre des notaires de Gironde du 11 mai 1944, on n'est pas très très loin de la fin de l'histoire. Les désignations de notaires commis ont lieu par les soins du président. Le chef a toujours raison. Qui après avoir pris à son compte, la première adjudication pour donner l'exemple. Et c'est là que c'est bien marrant. Un mauvais exemple d'ailleurs, puisque l'immeuble mis en vente n'a pas été adjugé faute d'enchères. C'est un échec, page 261. Donc c'est un des rares échecs de la vente, même en Gironde en 44. Et pourtant, on l'a vu jusqu'en 44, septembre, on envisageait de vendre, mais parfois il n'y a quand même pas d'acquéreur. Donc on essaie de vendre, on peut pas en plus être le vendeur, l'acquéreur. Enfin, il faut laisser pour les autres. Deuxième secteur, c'est les successions. Je vais être un petit peu plus rapide sur les successions. Parce qu'il faut dire beaucoup de choses, et qu'on imagine que pendant la guerre, il y a plus de morts que d'habitude, enfin dans certaines circonstances. En réalité, l'obésité, l'hypertension artérielle, et il y avait un certain nombre de maladies dont les Français n'étaient pas atteints, mais en règle générale, lorsqu'on a, je sais combien, 700, 800, 900 calories au lieu de 2000 et quelques, on a du mal quand même à tenir la route. 1949, études et documents, c'est une revue sérieuse, une revue de la documentation française, 1949, dit qu'il y a 3000 successions en déshérence. Pourquoi ? Bien, les personnes sont mortes. Ça, c'est vrai à Bordeaux, c'est vrai à Nancy, c'est pas vrai ailleurs. Donc, il serait intéressant de savoir pourquoi le Conseil supérieur du notariat n'a pas jugé utile, nécessaire, d'aller voir qui pouvait éventuellement... L'argent est où ? S'il y a des successions déshérences depuis 1949. Alors l'explication, elle est très simple, page 99. Monsieur Bruno Voisin, responsable du service de communication du CSN, Conseil supérieur du notariat, n'hésite pas à soutenir, je le cite, que le CSN n'a été créé qu'au lendemain de la guerre en 1945. Donc le fichier immobilier 56, le CSN 1945. Et ceux qui, dans cette salle, pourraient penser que la loi du 26 juin 1941 a créé le CSN se sont trompés. En réalité, c'est 1945, il ne s'est rien passé avant. C'est pareil, sur pilotis, on vit dans les barques. Enfin, voilà. Non, c'est clairement pas très raisonnable. Et à qui, monsieur Voisin, écrit-il ça ? À la commission Mattéoli. Donc la commission Mattéoli à cette information que le CSN n'est pas concerné parce qu'il s'est passé entre 40 et 45, puisqu'il n'était pas né. Il n'y avait pas de notaire à l'époque. Ils n'ont pas osé quand même. Mais donc sur les successions, la question se pose de savoir pourquoi depuis 1949, bon, les notaires sont des gens très pris, c'est vrai, mais pourquoi depuis 1949, aucun notaire ne s'est jamais dit, tiens, si je regardais dans mes minutes, pour voir si par hasard, je ne pourrais pas faire quelque chose pour des gens qui... revenant des camps, par exemple, apprécierait de ne pas se retrouver nu et cru. Bon, personne n'a eu cette idée. Regardons maintenant les fonds. On s'intéressera aux consignations après. Non, aux consignations maintenant. Les consignations, c'est les sommes que perçoivent les notaires au nom et pour le compte de leurs clients. Vente immobilière, succession, donation, partage. Le régime de Vichy était très favorable au respect de la famille et de ses valeurs. Mais quand le mari était juif, la femme arienne, ou l'inverse, il était plutôt favorable au divorce qu'au maintien des liens sacrés du mariage. Donc il y a eu effectivement un certain nombre de... Donc les notaires sont intervenus, encore une fois, c'est leur compétence pour ce faire. Il fallait consigner. La loi du 22 juillet 1941 prévoit très précisément des modalités de la conciliation, compte 501, compte 511. Bien évidemment, les notaires ont dit, mais il faut qu'on se paye, non ? Mais Vichy a répondu, mais bien sûr, il n'a jamais été question que vous versiez 100% de... Bien sûr. Probablement, un certain nombre de notaires, ils ont de l'humour et parfois sont un petit peu, je sais pas, tête en l'air. Figurez-vous, ils n'avaient pas vu ça. Non, ils ne s'étaient pas rendu compte. On ne peut pas lire toutes les lois non plus, vous vous rendez compte. S'il faut se mettre à lire toutes les lois, on est foutu. On est dans un pays où il y a trop de lois. Donc ils ont lu un petit peu, deux, trois trucs, mais ils ne peuvent pas lire toute la loi. Et là, on apprend que soit François de Menthon, qui est ministre de la Justice, et qui dit, bon, ce serait quand même bien qu'ils finissent par rendre l'argent. Parce que l'argent n'avait pas été remis au propriétaire juif, mais il avait été gardé par le notaire, par inadvertance. Il ne faudrait surtout pas que quelqu'un se sente visé et dise les auteurs attaquent les notaires. Ce n'est pas tout le cas, ce n'est pas le propos. Mais on constate quand même qu'il a fallu qu'il y ait un décret du 2 février 1945 disant à partir d'aujourd'hui, si un notaire a un centime, eh bien c'est 5%. Ça va lui coûter 5%. Et il faut savoir, on a mis les chiffres, sur 2000 consignations, 91 avaient été faites sur le fondement de la loi du 22 juillet 1941, donc avaient été faites convenablement. Et un peu plus de 1900 pour les matheux. Il a fallu attendre le 2 février 1945 et les notaires sont à Quin. Ils avaient 15 jours, ils ont remis le 17 février 1945. Ont-ils tout remis ? C'est la question que s'est posée la commission Matteoli. Et donc elle s'est dit si on faisait quelques sondages. Et elle s'est dit si on allait voir, bon, par exemple, les comptes de l'ancien président du CSN, Maître Collet. C'est intéressant parce que Maître Collet est président du CSN. Son associé, Maître Chardon, est président du CSN. Son associé, Maître Tarade, est président du CSN. On s'est dit, là, on a du lourd. Eh bien, figurez-vous que la commission Matteoli a découvert que Maître Collet, pris sans doute par d'autres activités, ne s'était pas rendu compte qu'il avait gardé, par inadvertance, en 2000, on a page 443, deux ventes qui n'ont pas été consignées en 2000. Je n'accuse personne de malhonnêteté, que les choses soient claires. Je constate simplement qu'il y a des choses bizarres. Alors, 19 avril 1945, Maître Michel Bouvet, notaire à Paris, écrit, page 442, écrit « Je m'excuse du retard apporté à effectuer ces consignations. » Oui, je crois que c'est de l'humour, effectivement. « Mais cette obligation m'avait échappé. » Voilà. Mais cette obligation pour les officiers ministériels m'avait échappé. Parce qu'on va dire qu'il ne cite pas complètement. Voilà, ça c'est... 19 avril 1945. C'est évident, ce serait drôle si ce n'était dramatique. Troisième secteur, c'est le secteur des... Donc les consignations, on sait qu'elles ont été très mal faites. Le commissaire général aux questions juives a même fini par créer un service comptabilité. Disons, il faut qu'on les suive. On ne sait pas où est le pognon. C'est pas raisonnable. Et l'essentiel de l'argent qui a été versé, c'est l'administration des domaines qui l'a versé. Donc, en province, il y a très peu de sommes qui sont versées. Encore une fois, sous réserve, bien évidemment, que des documents qui nous ont échappé, nous soient portés à notre connaissance, auquel cas nous modifierons, mettra des erratums. Mais pour l'instant, les chiffres parlent malheureusement et disent des choses qu'on préférerait ne pas lire. Troisième point, c'est celui des valeurs mobilières. Alors, le valeur mobilière, c'est le chapitre le plus difficile à lire. On l'a réécrit 6 fois, et je ne vous assure pas qu'on soit particulièrement satisfait de cette 6e ou 7e rédaction. Il a fallu essayer de montrer quels étaient les différents régimes. Il y en a les titres cotés, les titres non cotés, les titres nominatifs, mais il y en a également un régime particulier pour les bons du Trésor. Français, bon, du Trésor. Les Allemands avaient demandé aux Français de payer 400 millions par jour. Donc il fallait essayer d'alimenter. Oui, ça fait 860 milliards à la fin de l'histoire. D'autant que le Deutschmark est passé à 20 francs. Ça, c'est méchant, quand même. Ça ne les valait pas. Et puis qu'on est passé de 400 millions par jour à 300 millions quand Laval est revenu, qu'il a réussi à négocier. Mais quand les Allemands ont pris toute la France, ils ont dit que ça nous coûte de l'argent d'aller jusqu'à la Méditerranée. Donc, on passe à 500 cette fois-ci. Donc, c'est 400 millions, puis 300 millions, puis 500 millions par jour. Voilà pour les amateurs de chiffres. Les notaires sont, en 1939, et ça, c'est très important parce qu'aucune étude... pas davantage un autre, hein, mais aucune étude n'a jamais porté sur les sommes qui avaient été versées à des notaires avant le, à votre choix, 1er septembre 39, 18 juin, 10 juillet 40. Alors, ça pose un problème parce que la commission Matteoli et d'autres encore disent, voilà, N% ont été restitués. Comment peut-on savoir que une somme restituée correspond à un pourcentage si on ne sait pas quel est le 100%. Et donc, les études qui ont été faites... c'est le deuxième caillou, j'arrête après pour Matteoli, parce qu'ils ont fait un bon travail. Mais ce n'est pas raisonnable de dire que X%, ils sont allés jusqu'à 90%. 90% des sommes ont été versées. Ben, comment peut-on le savoir, puisqu'on ne sait pas quel est le 100%? Là, ce n'est pas sérieux. Ça fait deux fois où je me suis dit quand même... Ce sont des gens sérieux qui ont fait ce travail, mais là, ils se sont laissés abuser. Par leur sens, abuser. On va voir que les notaires, il y avait des cours officiels. C'est vraiment compliqué, donc là je passe, et pour ceux qui voudront vraiment regarder, c'est le régime est différent avant telle date, après telle date. Enfin, c'est très compliqué. Les notaires, une interdiction leur est faite une loi de 1843. Comme vous le savez, les notaires ne lisent pas toutes les lois, donc ils ne se sont peut-être pas rendus compte, qu'ils n'ont le droit de bénéficier ni personnellement ni par personne interposée de quelque somme que ce soit dans le cadre des affaires qui leur sont confiées. Quel est le nombre de phrases qu'ils n'ont pas compris? Eh bien, nombre de notaires se sont attribués soit à titre perso, soit ont offert à leurs clercs de prendre les bons au porteur. Le bon au porteur, c'est un bon qu'il est difficile de tracer. La traçabilité du bon au porteur est un vaste sujet d'étude, ou au contraire, un sujet très court. Petite erreur, mais qui a quand même été relevée par le ministère de l'Économie et des Finances, qui au moment dit, écoutez, c'est agaçant, on ne sait pas ce qu'ils font. Pas seulement. Ils ont également fait des ventes. Alors, il y avait des ventes à cours fixées. Eh bien, les notaires ont fait un marché noir des titres. Donc, marché noir plus détournement de titres. Je ne dis pas que tous les notaires de l'Hexagone ont fait des... Je constate simplement que le ministère de l'Économie et des Finances est inquiété. Donc, j'en déduis que ce n'était peut-être pas résiduel. Ce n'était pas un notaire dans son coin qui, n'étant pas à jour de la 1843, ne s'était pas rendu compte... où la page avait été arrachée, enfin, c'est pas ce que c'est. Et non, ça veut dire que massivement, ça s'est passé. Venons-en à 12 tonnes de titres. 12 tonnes de titres, j'ai pas la moindre idée du poids du papier, mais j'ai le sentiment que ça fait du volume. 1939, les notaires se rendent compte, ce ne sont pas les seuls, que la guerre arrive. Donc ils louent les notaires de Paris. Et on trouve ça dans le livre de Maître Collet et Houdard, c'est-à-dire que c'est de première main. J'ai travaillé sur le livre que deux notaires, Maître Collet et Maître Houdard, rédigent en 1965. Et ils ont été, il faut quand même le rappeler, président de chambre de Paris l'un puis l'autre, et ensuite pour Maître Collet, troisième président du CSN. Donc, je pense que ce qu'ils disent doit correspondre plutôt à la réalité. Les notaires de Paris, 150 personnes, décident de mettre à l'abri les titres appartenant à leurs clients et louent quatre chambres fortes dans les sous-sols de la Banque de France. Puis, l'avalanche roulant, c'est dans Collet-Houdard. Ils décident de mettre les titres à l'abri et font prendre le train aux titres. On descend jusqu'à une ville qui est à Alès, à côté de Nîmes. Alors, je ne sais pas si on est à bord. Oui, bon, c'est bon, vous connaissez. Donc, près de Nîmes, ce qui est loin des Allemands, mais ce qui est aussi loin de Paris et loin de la ligne de démarcation. Donc, ils décident en 1841 de remonter à Grenoble. Nous voici à Grenoble. Là, ils divisent en deux. Il y a 80 sacs d'un côté, 70 sacs et cartons de l'autre. Et globalement, remontent à Paris les titres français, d'après ce que disent Maître Collet ou Dard, je leur fais confiance. Il conserve les titres et valeurs de sociétés étrangères. Puis, les notaires vont organiser, vous trouvez les citations précises des voyages entre Paris et Grenoble pour aller chercher les coupons. Alors, les personnes les plus âgées se souviennent peut-être qu'à l'époque, on détachait des coupons annuellement pour le bain. Aujourd'hui, tout est dématérialisé, donc on n'a plus la même idée de ce que c'était. Et Maître Collet ou Dard explique très bien, gratuitement, les notaires ont pris le risque d'aller. Il se trouve que lorsqu'on regarde le régime juridique de la ligne de démarcation, lorsqu'on lit par exemple les mémoires de Maurice Garçon, qui est un avocat, donc un mauvais homme, il dit qu'on n'avait pas le droit d'avoir des titres, de l'or. On n'est pas dans des documents non plus, puisque le comité interdit de passer autre chose que les cartes postales sur lesquelles on mettait des croix. C'est sûr que si on passait des documents papier, ce n'était pas la peine d'interdire la poste s'il suffisait de prendre le train. Eh bien, les notaires n'ont eu aucune difficulté pour remonter, descendre. Ils ont fait ça une dizaine de fois. Je trouve ça une belle performance, déjà. Les ministres n'y arrivaient pas. Vous lisez les mémoires de Joseph Barthélémy, qui est ministre de la Justice, garde des Sceaux, ancien professeur d'université, et qui explique que le menu fretin dont j'étais, je parle de lui, hein, citation, n'avait pas l'autorisation de se déplacer. Il dit « Je suis resté plusieurs mois sans pouvoir contacter mon ministère, dont certains services étaient remontés à Paris. » Les notaires, eux, n'avaient pas cette difficulté. Ils expliquent très très bien, les maîtres Collet ou Dard, qu'ils ont pris les coupons pour les remettre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est leurs clients juifs se planquent. Certains sont partis en zone la zone sud. Comment ils ont fait pour remettre les titres? Bon, certains sont restés au nord, mais sous une fausse identité. Ils se déplaçaient. Comment les notaires parvenaient-ils à remettre à leurs propriétaires juifs la contrepartie de ces... Comment faisaient-ils? Et non, malheureusement, Maître Collet ou Dard sont... tellement âgés qu'ils sont morts. Mais sinon, j'aurais volontiers posé la question de savoir comment ils ont fait. D'autant qu'il y a un régime juridique qui est prévu d'enregistrement des titres chez un agent de change. Donc comment faisait-il pour remettre des titres qui n'avaient pas été enregistrés alors qu'ils n'avaient aucune valeur s'ils n'étaient pas enregistrés? Enfin, tout ça me paraît très très compliqué. Et puis, on s'est demandé si par hasard, si on était à la fin de la guerre. Les pouvoirs publics se sont aussi posé la question parce qu'ils ont proposé aux notaires de prendre les titres et de les remettre à Brive, où y a-t-il, paraît-il, une succursale de la Banque de France spécialisée dans les titres étrangers. Je l'ignorais, je l'ai appris à cette occasion, puis ça a sans doute changé depuis. Les notaires ont préféré s'occuper eux-mêmes de cette tâche, et donc ils ont remonté les titres, on ne sait pas très très bien comment, mais ils sont très bien parvenus. Si j'avais mauvais esprit, je dirais que nous sommes allés ensuite aux archives de la ville de Paris. C'est là qu'on trouve les déclarations de succession des notaires qui décèdent, car le notaire n'est pas immortel. Et on s'est intéressé aux déclarations de succession des notaires qui avaient été très actifs entre 1940 et 1944. Et on s'est rendu compte, et là que les choses soient très très précises, je ne dis pas que les titres qui ont disparu en 40 sont réapparus chez les notaires. Je dis qu'il y avait beaucoup de titres chez les notaires. Donc on voit beaucoup de titres disparaître, et on voit beaucoup de titres, et je ne dis pas réapparaître. Là, ce serait de la diffamation pure et simple. Mais je dis qu'il serait intéressant de savoir pourquoi l'archiviste a refusé qu'on continue de travailler sur ce dossier. Parce que c'est quand même curieux, nous étions plein de bonnes intentions, puisque nous essayions de voir ce qu'il y avait dans les patrimoines. On n'essayait pas d'accuser quiconque. Mais simplement, généralement, lorsqu'on cache des choses, est-ce que c'est pas parce qu'il y a des choses à cacher? Donc on finit par devenir suspicieux. On ne l'aurait pas été du tout si on nous avait permis de chercher jusqu'à la fin. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très ennuyeux. On va, pour ce qui me concerne, terminer sur l'ouverture des coffres, parce que c'est quelque chose qui me plaît assez. C'est difficile de scandaliser un nazi. C'est pas facile. Les notaires y sont parvenus. Il se trouve que les notaires ont procédé à nombreuses ouvertures de coffres. Ils étaient tous vides. Incroyable. C'est une tradition française de louer dans les banques des coffres vides. Alors, à mon avis, à Paris, ça s'explique, c'est l'air de Paris. Tout le monde connaît l'air de Paris. Donc, on conserve l'air de Paris, ça, c'est normal. Mais à Bordeaux, il pleut tout le temps. C'est pas sérieux. Alors, les Allemands ont dit, ils ont fini par devenir suspicieux, eux aussi, et ils ont dit, il faudrait désormais, page 328, que les ouvertures de coffres soient réalisées en présence des autorités d'occupation. Pourquoi, je ne sais pas du tout. C'est une lettre du préfet du Doubs à Maître X, notaire, qui voulait sans doute ouvrir tout seul ses coffres. Et il se trouve, par une concordance des temps que je ne m'explique pas personnellement, que j'ai écrit un premier livre sur les notaires qui a attiré l'attention du CSN au point qu'ils m'ont fait un procès que j'ai gagné en première instance grâce à mon avocat, procès que j'ai gagné en appel, mais on est, paraît-il, en cassation. Ils ont déjà perdu le CSN le 1er septembre 2004, chambre criminelle, qui a dit que le CSN ne peut pas se constituer partie civile. Mais ils sont quand même allés me chercher là-dessus. Alors, j'ai reçu, les auteurs reçoivent actuellement des courriers d'électeurs. Moi, j'ai reçu des dossiers d'électeurs. Et notamment une personne qui... l'affaire est assez simple, même quand on n'est pas juriste. La tante, la nièce. La tante décède, la nièce hérite. Si quelqu'un ne me suit pas, je recommence. Et la nièce m'écrit. Cher monsieur, voilà la lettre que je reçois du notaire. Qu'écrit le notaire ? Le notaire écrit « Madame, virgule, à votre demande, j'ai, etc. » Il m'a dit « Moi, j'ai rien demandé. » Alors, à votre demande, j'ai ouvert le coffre, il était vide. C'est curieux quand même, tous ces coffres vides. Enfin, le coffre était vide. Alors, je dis « Écoutez, réagissez auprès du notaire en disant « Mais je n'ai rien demandé. » Ça, c'est un faux en écriture publique, c'est un crime, c'est 10 ans, c'est les assises. Si le droit s'applique, c'est pas forcément non plus. Faut pas être pointilleux comme ça. Bah, j'enseigne le droit à la fac, donc je suis obligé de dire aux étudiants qu'on applique le droit, mais on sait très bien que c'est pas vrai. Enfin, pas pour ce genre de détails, par exemple. Alors j'ai dit, bah, écrivez à votre notaire, dis-tu, mais j'ai rien demandé, moi. Elle a écrit, j'ai rien demandé. Et le notaire lui a renvoyé une lettre antidatée. Il suffisait qu'elle la signe, demandant l'ouverture du coffre. C'est pas idiot. Donc si un notaire ouvre un coffre, sans que personne ait rien demandé, il suffit qu'il fasse une lettre antidatée. Alors ça, c'est un faux. C'est un deuxième faux, c'est un deuxième crime. Alors je pense que quand on a deux faux, deux crimes avec un seul notaire, on peut peut-être saisir le procureur de la République. Procureur, la République, res publica, procurator, c'est le type qui prend soin de vous. Donc je me dis, c'est le type qu'il faut aller par priorité contacter. Et le procureur a dit, ça, c'est un notaire comme ça. Donc je ne sais pas à partir de quand... deux crimes, c'est suffisant. Autrefois, il y avait trois pour le prix de deux. Alors peut-être qu'effectivement, on va chercher un notaire à trois crimes. Je ne sais pas vous dire, mais à deux, ce n'est pas suffisant. Donc je dis ça évidemment pour ceux qui seraient intéressés par une éventuelle action. Attendez le deuxième crime, et quand vous avez le deuxième, attendez le troisième. Sinon, ce n'est pas la peine. Non, c'est vrai. Sinon, vous allez courir... De déception en déception. Voilà. Donc, on a regardé cette affaire. Les notaires sont allés au-delà du texte. Les notaires sont allés au-delà du terme. Et vous dites, ils ont été épurés à la fin de la guerre. D'autant que... sévèrement épurés, pardon. D'autant que le président de l'association des notaires ruraux... On l'avait perdu, celui-là, hein, depuis 5 ans. Ben, il a écrit une lettre en octobre 1945 au ministre de la Justice en lui disant... les membres du CSN ont tous été nommés par Vichy, ce serait peut-être le moment de les virer. Non.
Bon. Non. Alors, si tu veux que je finisse ? Oui. Alors, en fait, en pratique, l'épuration, c'est les notaires eux-mêmes qui l'ont mis en œuvre. C'est-à-dire qu'on leur a demandé si, au sein de leur compagnie, donc auprès de chaque chambre des notaires, si ils avaient collaboré ou si c'était bien tenu. Donc, à l'unanimité, chaque chambre a donc consigné dans un PV, un procès verbal, qu'il n'y avait pas eu de collaboration et que toutes les règles avaient été bien appliquées. Ils ont même jusqu'à nier avoir appliqué les ordonnances allemandes, hein, parce qu'il faut quand même se rappeler que l'aryanisation économique, c'est quand même d'influence allemande à l'origine. Ils ont toujours dit se conformer au droit purement vichyste. Alors aujourd'hui, on se rend compte d'une chose aussi, c'est-à-dire qu'à la fin de la guerre, les notaires vont demander une augmentation du tarif légal parce qu'ils considèrent effectivement qu'il y a une perte de chiffre d'affaires énorme puisqu'ils ne peuvent plus spolier du fait de l'abrogation des lois raciales. La République, réinstaurée, cède bien sûr à la pression notariale et leur accorde une augmentation de 30% de tarif. Voilà, donc 30% d'augmentation du fait de la non-spoliation des Juifs. Il faut savoir que cette indemnisation est toujours en vigueur. D'accord, encore aujourd'hui, on n'est pas revenu. Il y a un débat aujourd'hui avec la loi Macron. Donc, on propose de réduire le tarif légal des notaires de 2,5%. Donc, ce qui veut dire encore aujourd'hui qu'une large partie des Français doivent supporter encore cette indemnisation. Voilà, donc c'est pour ça que, à la question, mais alors, ça fait 70 ans, tout ça s'est passé, il n'y a plus rien à dire. Non, on voit encore aujourd'hui qu'il y a un secret qui n'a pas été levé. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Donc à travers ce livre, dévoiler le secret des notaires, qu'ils aient cherché à le conserver à la limite. Bon, pourquoi ? Bon, pourquoi pas ? On a une démonstration, on comprend. Maintenant que les pouvoirs publics aient maintenu le secret et permis aux notaires de le conserver, c'est ça qui est beaucoup plus dérangeant pour nous. Voilà, c'était cette volonté aujourd'hui de vérité qu'on a voulu lever et chercher à travers ce document. Justement parce que à force de dire qu'il n'y a plus rien à dire et que tout est écrit, on se rend compte qu'on passe à côté de l'essentiel. Pour vous donner un ordre d'idée, le notariat, c'est 6 milliards de chiffre d'affaires par an. Donc si vous appliquez cette fameuse indemnisation augmentation de tarif de 30%, c'est pratiquement par an presque 2 milliards d'indemnisations du fait de la non-spoliation qui est encore en vigueur. Voilà, c'est énorme et c'est quand même une réalité encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vous sensibiliser au moins à cette question-là du tarif qui a une relation très actuelle.
Merci de votre participation.
Merci. Merci.